On est tous réunis ce soir pour donner un cours de Ilou Nishmat de David Ben Léa, qui est décédé cette semaine dans l'incendie à Montreuil, et pour la retrouvaille de son ami Jonathan Shimshon Ben Bako. Que Kadosh Baruch Hu lui fasse un petit miracle, lui donne la refoua chez les mains, par le mérite de son cours, par le mérite des mitzvot, que les gens prennent sur eux, de l'étude des Tehillim, de ses amis qui s'inquiètent pour lui, qui prennent sur eux des mitzvot, abordez le cours. Il y a, depuis l'incendie, depuis dimanche, il y a un nombre incalculable de personnes qui m'ont appelé pour ce jeune garçon. Apparemment, il connaissait beaucoup de monde, de différents milieux, très étonnant. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, on voit qu'il a dû sauter par la fenêtre pour échapper aux flammes de l'incendie, qu'aujourd'hui les médecins disent que son état s'est stabilisé, son visage aurait été enflé, sont les dires des personnes qui auraient été à l'hôpital et qui me tiennent au courant de son état de santé. Mais il faut prier, Bezrat Hashem, pour qu'il s'en sorte avec une bonne santé. C'est pas évident. Bezrat Hashem. On nous enseigne dans Masechet Brachot que on nous parle de sages qui ont eu du mal de prendre sur eux la galoute, l'exil. On ne parle pas simplement de la galoute, de vivre en dehors d'Israël. On parle de l'exil sans temple. Tant qu'il n'y a pas Mashiach, ça reste la galoute. Même si Baruch HaShem, aujourd'hui, quand on va en Israël, c'est un très bon début de Géoula, d'accord ? On n'a pas encore le Beth Amikdash. Quand on aura le Beth Amikdash, quand Bezrat HaShem, tout le monde enfin reconnaîtra que chez nous, c'est là-bas, que ça appartient au peuple juif, la terre d'Israël, qu'il y a l'emplacement pour Beth Amikdash. Alors là, Béhémet, on pourra parler de véritable Géoula, plein de Dieu. Et pour nous et pour l'ensemble de l'humanité, dans la paix et l'harmonie. On voit dans la Gemara qu'on nous rapportait que les sages, lorsqu'ils avaient des épreuves sur eux, leur enseignaient qu'ils devaient accepter les épreuves dans ce monde, parce que les épreuves sont le lot quotidien de l'exil dans lequel on vit. C'est pas évident du tout à vivre, c'est très facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à vivre. Quand on a un jeune ami, quand on a un fils, quand on a un frère, quand on a un neveu, quand on a un cousin qui a cet âge-là, le jour où il avait décidé de prendre l'avion pour faire son alia et partir vivre en Israël, un incendie se déclare. Il doit sauter par la fenêtre, il se retrouve entre la vie et la mort à l'hôpital. C'est pas facile à vivre. Pas facile. Même pour quelqu'un qui ne le connaît pas, quand on entend cette histoire, c'est quelque chose de pas facile à vivre. Alors, j'aurais pas la présomption ni l'orgueil de vous dire comment il faut prendre les choses. Ce serait plus que déplacé. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer ensemble de voir quelques enseignements autour des épreuves, quelques enseignements autour de la réfoua, et beaucoup d'enseignements autour de la alia en Israël, surtout de nos jours dans le contexte actuel. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est bien que vous écoutiez. On voit que Chachamim, nos sages de Mebor Beni, nous rapporte dans la Gemara que toutes les épreuves qu'on a dans ce monde, c'est le quotidien de ce monde. Tant qu'on n'a pas la Géoula, la délivrance finale, le Beth Amikdash, la venue messianique, le monde dans lequel on vit, ça reste un couloir qui est là pour nous mener vers le monde futur, et ce couloir est jonché d'épreuves. On n'est là que pour subir. La vie dans ce monde n'est pas facile. Travailler, c'est très dur pour la santé, mais en réalité, travailler, c'est quoi? C'est une klala dans la Torah. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit « Beziat apecha tochal lechem » à la sueur de ton front, tu mangeras le pain. C'est après la faute originelle, avec Adam et Ève, le fruit interdit. Akadosh Baruch Hu lui a dit « Maintenant, pour réparer ta faute, la terre que tu n'avais pas besoin de travailler, il faudra que tu la travailles. » que tu laboures la terre, que tu sèmes la graine, que tu attends de voir tes fruits et légumes pousser, voir les récolter. C'est une clala. Mais de l'autre côté, on voit que la parnassa, c'est une bracha. Donc la subsistance, le moyen qu'on a de vivre dans ce monde, Akadosh Baruch Hu nous le donne, c'est une bracha. Mais le fait de devoir travailler, c'est une clala. En réalité, si Adam Arishon n'avait pas fauté, on n'aurait pas besoin de travailler dans ce monde, pour pouvoir subsister. De par la faute de Adam Arishon, on est arrivé dans le monde dans lequel on est arrivé. De par la faute de nos pères, qui sont mal comportés à l'époque du premier temple et du deuxième temple. De par leur faute à eux, à cause du Lashon Hara, à cause de la Sinatrinam, à cause des mauvaises mœurs, les deux temples se sont fait détruire. À cause de meurtres dans la communauté, à cause de violences dans la communauté, d'un juif vis-à-vis de son prochain, les deux temples se sont fait détruire. À cause de la haine gratuite, les temples se sont fait détruire. Que fait Kadosh Baruch Hu entre temps, depuis qu'on n'a plus de temple pour pardonner au peuple? Un, il nous enlève notre tzadikim. Deux, il fait payer le prix à des innocents, à des enfants. Parfois à des enfants. Parfois pour d'autres raisons. Il y a des gilgoulim, il y a des réincarnations, on n'est pas dans les comptes de Dieu. Et trois, il va s'en prendre parfois aussi à des jeunes qui n'ont pas encore commencé, qui sont encore entre deux dans leur vie. Et eux, ils payent. Pour la génération. De quelle règle on est en train de parler? D'une règle simple, qui s'appelle que le Am Israël Kulam Arivim Zelazé, que les Bnei Israël, on est tous garants les uns des autres. De la même façon, les êtres humains, on est tous garants les uns des autres. Quand il y a un homme qui est sur un bateau et qui décide dans sa chambre de faire un trou dans la coque pour que l'eau rentre dans sa chambre, tout le monde va taper à sa chambre et lui dire « Mais attends, avec ton trou, tu vas couler tout le bateau. » Il dit « Non. Moi, j'ai payé mon billet. C'est ma chambre. C'est première classe. Si je veux maintenant faire la baignoire et jacuzzi dans ma chambre, vous ne pouvez rien dire. C'est ma chambre. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis chez moi. Mets-toi de chez toi. Moi, chez moi, je n'ai pas besoin de faire Shabbat. Chez moi, je n'ai pas besoin de manger kasher. Chez moi, je n'ai pas besoin de mettre les tefilines. Toi, l'obligé, t'es gentil, fais ça chez toi. Moi, je fais ce que je veux dans ma chambre. C'est moi qui ai payé ici. T'es en train de couler tout un bateau. Moi, chez moi, si j'ai envie de parler contre les juifs, si j'ai envie d'inventer des inventions contre le Talmud, contre la Torah, pour faire monter l'antisémitisme en France, parce que je suis un névrosé, parce que je suis un dépressif, parce que je suis un homme qui vit mal sa vie, parce qu'il a raté sa vie, et qui veut faire croire aux gens qu'il est cultivé ou culturé, comme ils pourraient nous dire ces idiots, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité qu'il est en train de faire couler tout un bateau. Parce que lorsque l'antisémitisme est en train de monter en France comme il est en train de monter, quand l'antisémitisme est en train de monter en France comme il est en train de monter, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que c'est toute l'humanité qui est en danger. Pas que les juifs. Crise économique mondiale. Il y a le krach de 1929. Crise économique mondiale. Il n'y a pas de quoi travailler. On va parler contre les juifs. On parle de racisme. Dans quel contexte on est en train de rentrer? On veut rentrer les gens dans une ambiance de guerre. Après, on s'étonne. On s'étonne de se dire dans une telle ambiance, comment est-il possible qu'un beau jour, il puisse y avoir des épreuves? Qu'un beau jour, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages, non seulement à nous, mais à toute l'humanité. Ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est tout simplement la teshuvah de chacun d'entre nous. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau doit comprendre aujourd'hui que c'est ça qui est en train de se jouer. Que des problèmes, il y en a partout dans le monde. Que l'endroit aujourd'hui le plus sûr pour le juif dans le monde, ça reste Israël. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et qu'aujourd'hui, les juifs en Europe, ils doivent se préparer à monter. à rentrer à la maison. Parce que ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, ce sont les derniers temps avant la venue messianique. Ça, ça fait quasiment 2000 ans que nos pères et nos ancêtres nous le rabâchent. À un tel point qu'il y a une expression qui dit « Qu'est-ce que t'attends ? Que ma chère vienne ?» Pour rigoler. Entre nous, on sait très bien, Mashiach, est-ce qu'il va venir un jour? T'attends quoi? Que Mashiach vienne? Bouge-toi. Pourquoi t'attends Mashiach qui vienne? Le problème qu'il y a, c'est toujours, il va venir Mashiach. On va rigoler. Je vous donne un exemple. Mashiach, il arrive en Israël. Tout le monde est au bord de la mer. On entend le shofar. Mashiach est venu. Nathaniel le Kika, ils sont tous, ils n'attendent pas l'ascenseur. Tous, ils montent dans les escaliers. Ils vont tous chercher dans les magasins sur le Kika à s'acheter un tel katane, les bonhommes, une kippa. Rupture de stock, vous savez, Mashiach est déjà venu. Grillé. À la plage, sans talit, sans kippa. Oh, oh, Ginette, qu'est-ce qu'on va faire, Mashiach, il est arrivé. Ça y est, halita. Vous imaginez le truc? Imaginez Sully. Mais c'est vrai que c'est marrant, vous pouvez rigoler. Imaginez, le type, il est au cuic, sur le point de manger son bacon avec le fromage. Tout, 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 chauffard, ma chère, il est arrivé. Ouh, comment il va être? Alors, est-ce qu'on doit attendre la dernière minute? Il y a une tendance. Dans cette génération, on dit que la génération avant la venue messianique, elle sera très proche de Dieu, aura des connaissances en Torah extraordinaires. Je vous le confirme. Les grands Torah qu'on a aujourd'hui, ils sont exceptionnels. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de tout le peuple d'Israël autant de yeshivot, autant de kolélim, autant que de synagogues qu'aujourd'hui. Jamais. Jamais. Et pourtant, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, on n'a jamais été aussi peu nombreux. On est de moins en moins nombreux, et les endroits pour étudier la Torah sont les plus nombreux de toute notre histoire. Donc d'un côté, on voit que les Israélites, ils sont proches de la Kadosh Baruch Hu. Il y a des rabbanim, il y a la Torah, il y a la Mitzvot, il y a des millénaires d'enseignements derrière nous pour nous aider à comprendre les choses. Il y a des Gemarot qui ont été compilées au 4e siècle, mais rédigées il y a un petit peu moins de 2000 ans. Qui nous parle de la distance entre la Terre et la Lune, à la virgule près. Il y a des Zohar qui nous parlent du phénomène de gravité, des atomes, des molécules, des protons, des neutrons, de l'influence du climat sur le métabolisme humain. Comment un monsieur qui s'appelle Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, ou un autre monsieur qui s'appelle Rabban Gamliel, peuvent être au courant de choses pareilles, à leur époque, à eux. Alors, le Rav Levinstein, il répond une chose extraordinaire à ça. Il dit, les scientifiques, ils ont créé la théorie du créationnisme, qui voudrait dire que les samouraïs, l'art du Bushido et l'art des sabres, viendrait d'une science extraterrestre. Que les pyramides, que les pharaons qui auraient eu des pouvoirs magiques auraient été des extraterrestres. Et toutes sortes de théories scientifiques sérieuses, hein, dont beaucoup se sont inspirés à Hollywood pour nous en faire des films. Donc on nous raconte des choses extraordinaires. Et là on va nous dire, ben peut-être que dans le Talmud, c'est la même histoire, il y a des extraterrestres qui sont venus et qui ont tout expliqué aux sages. Peut-être que le matin de Torah sur le Har Sinaï, c'est la rencontre du troisième type, c'est une soucoupe volante qui est venue donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Le problème qu'il y a, hein, c'est que plus on étudie la Torah, et plus on voit le Hémet, et plus on se met dans l'étude de la Torah, et plus on comprend que cette histoire d'extraterrestres, ça ne sert à rien. On rapporte que avant le voyage sur la Lune, avant que les Américains aillent sur la Lune pour la première fois,
Il y a des scientifiques israéliens qui sont partis voir le Rav Shalom Sharabi, qui était à l'époque le Rosh Yeshiva de l'Yeshiva des Mekoubalim à Bethel. On dit que Vod HaRav, pour la première fois de l'histoire, il y a des hommes qui vont aller sur la lune, marcher sur la lune. Que fait-on ? Dans la Torah, il est marqué que la seule forme de vie qu'on peut trouver en dehors de la Terre est microbienne. Donc on ne pourra trouver que des microbes en dehors de la Terre. Mais que la seule planète sur laquelle des espèces se sont développées de façon avancée, c'est sur le globe terrestre, la Terre, nulle part ailleurs dans l'univers. Par ailleurs, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans le Talmud. Donc ça veut dire que le Talmud nous est en train de nous dire que les extraterrestres, ça n'existe pas. Ils sont tous venus voir en panique. Ils vont sur la Lune. Qu'est-ce qu'on fait si sur la Lune, il y en a un qui vient et qui croise un extraterrestre? Qu'est-ce qu'on fait? Si là, on dit Rabbi Shalom Sharabi, il a dit, regardez ce qui est marqué dans Tichat Eliyahu. Tous les jours, avant la Tfila, on lit un texte d'Eliyahu Hanavi, dans la Tichat Eliyahu, qui nous explique comment Dieu a créé ce monde, et qui nous explique qu'en dehors de la terre sur laquelle on vit, il n'y a pas de forme de vie si ce n'est microbienne. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu as trouvé, c'est des microbes. En dehors de ça, tu ne trouveras rien. Ça va plus loin que ça. Le Zohar nous dit que l'univers, lorsqu'il a été créé, tel que c'est rapporté dans Bereshit, à Kadosh Baruch Hu, l'univers était rempli. Rempli d'eau. Les gens aujourd'hui vont sur Jupiter. Ils trouvent autour de Jupiter des satellites naturels de cette planète qui a des anneaux. Ils trouvent un de ces satellites s'appelle Europe. C'est une planète immense qui est un petit satellite de Jupiter. C'est un bloc de glace. On trouve des blocs de glace dans l'espace. Comment ils sont arrivés là-bas ? La glace, c'est de l'eau qui a coulé. On nous rapporte que sur toutes les sphères de la création, il y a eu de l'eau. On nous dit sur Mars, apparemment, il y a des traces géologiques de sources d'eau. Sur la Lune, il y a des traces de sources d'eau. Mais ça, nous, on est déjà au courant. Bien avant que nos amis de la NASA, avec leur satellite, qui porte un nom extraordinaire, Hubble. Vous savez, c'est quoi Hubble en judéo-arabe ? Hubble, on dit, ils sont devenus fous. Aux États-Unis, ils ont des gens qui meurent de faim. Meurent de faim. Ils ont des programmes spatiaux pour aller explorer les planètes qui coûtent des milliards de dollars. Et comment ils nous font ça? En faisant des crédits face aux Européens. Ils ne payent pas leurs crédits. La crise qu'on a aujourd'hui, c'est les États-Unis qui n'ont pas payé ce qu'ils doivent aux Européens. C'est pas autre chose. Qu'est-ce qu'on voit? Hubble, ils sont devenus fous. Hubble. Ils vont nous chercher des images au fin fond de l'univers. Pour des choses que nous, on est déjà au courant depuis près de 2000 ans. Arrive un moment donné où il faut se calmer avec les extraterrestres. Arrive un moment donné, il faut comprendre qu'il y a un Dieu qui a créé la Torah, qui a créé le monde, et qui nous a donné sa Torah, parce que c'est le monde qui n'a pas pour vivre dans ce monde. Quand on a compris ça, on a tout compris. Le problème qu'il y a, c'est que dans la Torah, il est marqué que quand quelqu'un ne mange pas cachère, par exemple, c'est marqué que celui qui mange d'un animal non cachère, il est marqué dans la Torah, Venit Meklem et Nafshotechem, et vous rendrez impurs vos âmes. Les sages nous disent, ne lis pas Venit Metem et Nafshotechem, et là, Venitam Tem et Nafshotechem. Dis pas, vous avez rendu impurs vos âmes, vous avez bouché votre âme. Je donne un exemple concret. Il y a une voiture, c'est une diesel. Je décide de mettre du 95. Elle va rouler longtemps. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que le juif, il n'a pas le choix, il doit manger cachère. Durant la première guerre du Golfe, la guerre du Golfe a été déclarée, a explosé le 17 janvier. Mais un mois avant, les Américains sont déjà venus, ils sont arrivés, ils ont installé des missiles patriotes en Israël. Un mois avant, il y avait la fête de Noël, le 25 décembre. Je sais, on peut dire le nom. C'est pas super, mais on peut le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le soir du réveillon, les Américains qui étaient là-bas sur la base ont décidé de faire le réveillon, entre eux. Et bien sûr, le soir du réveillon, ils ont décidé de manger du boudin, fait à base de viande non cachère. Le boudin, vous savez, c'est quoi? du sang d'animal. Et là, c'est du sang de cochon.
Boudin.
Il y avait là-bas, sur la base, différents soldats juifs. J'en connais quelques-uns. C'est pas vrai, hein. Soir du réveillon, on leur a proposé de nous partager le repas. Ils ont tous refusé. Ils ont dit, oulala, c'est un mauvais délire. C'est pas cachère, c'est le soir du réveillon. Nous, on célèbre pas cette fête. Eux, ils ont le droit de la célébrer, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on peut pas. D'accord ? De manger pas cachère en plus, en Israël. Il y en a deux qui ont accepté. Deux. Ils ont eu les deux cancers des intestins dans la nuit. Ils ont guéri, dans Rachel. Ils ont guéri. Deux. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ce message ? Toute la plouga, ils étaient en relation avec eux, à l'époque, et c'était une chose extraordinaire pour tous les types. Ils se disaient, attends, vous souvenez, vous êtes les deux seuls à avoir mangé ce soir-là le cochon. Et vous deux, vous êtes tombés malades, ils ont guéri, Baruch HaShem. Mais grâce à quoi ils ont guéri ? Grâce aux prières, grâce aux Tehillim, grâce à la Teshuvah. Et aussi grâce à la médecine. Dans le Shulchan Aruch et dans l'Agmara, on nous rapporte que HaKadosh Baruch Hu, il a donné le pouvoir à l'homme de guérir son prochain. Juif ou non-juif. Ça n'a aucune importance. Le médecin juif comme le médecin non-juif ont les deux le pouvoir de soigner leur prochain. Kadosh Baruch Hu, il a donné ce pouvoir à l'homme. Il a donné la science, il a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir guérir son prochain, pour pouvoir arranger les choses, faire avancer les choses dans le monde. De ce fait, on dit que d'un côté, lorsque quelqu'un est malade, il faut d'un côté prier et se renforcer et faire des mitzvot, mais de l'autre aussi faire le minimum. Aller voir le médecin pour soigner. Il faut faire les deux. Les deux vont de pair. On ne peut pas compter que sur le médecin et on ne peut pas compter que sur la prière. Mais parfois, quand la médecine, dans certains cas, est arrivée à ses limites, tout ce qui nous reste, c'est la prière et la teshuvah. On voit quoi ici ? On voit premièrement qu'on doit comprendre. Dans cette période d'épreuve qu'on est en train de vivre, chacun doit se renforcer sur un point dont je suis en train de parler tout à l'heure, mais vous n'avez pas encore compris, ou vous avez tous compris sans comprendre. Je parle de la Emouna, de croire. Croire en Dieu, de croire en la Torah, de croire au misvot, et de se mettre à étudier. Le Rav Levinstein nous rapporte que celui qui ne veut pas croire en Dieu, il est obligé d'être un très grand croyant en la science, et de croire en des théories, et on le voit. Sur les 200, 300 dernières années, on a vu des théories scientifiques être remises en question, être légèrement corrigées, être revues. Donc toutes ces théories scientifiques, elles-mêmes ont été mises à rude épreuve et certaines d'entre elles ont totalement été remises en question. Pourtant, quelqu'un qui veut croire qu'en la science et qui ne veut pas croire en Dieu, il est obligé de croire dans toutes ces théories. Donc à la fin, ça devient un plus grand croyant que le religieux. Il se rend dans le fanatisme scientifique. Qu'à la fin, quand il n'a plus d'explication, il va nous sortir le lapin de son chapeau. Non, j'ai une réponse, extraterrestre. Créationniste, il n'y a pas de Dieu, il y a des extraterrestres. Où on va ? Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit ? Donc premièrement, chacun doit se renforcer dans le niveau de sa émouna. Deuxièmement, on voit que Kadosh Baruch Hu, pour donner la réfoua à son prochain, il y a une chose extraordinaire. On dit premièrement que quand on va prier pour que son prochain guérisse, on va profiter, nous, en premier, des prières qu'on fait pour notre prochain. Quand moi, je prie pour quelqu'un qui est malade, et que je veux demander quelque chose, c'est une question qu'on me pose très souvent, parce que dans la Gemara, ce qu'on nous dit, Al-Mitpalel Al-Khaveron Enarishon, celui qui prie pour son prochain, il en profite en premier. On dit alors, si le prochain, il est malade, et je prie pour qu'il guérisse, moi, j'ai pas besoin, j'ai pas de problème de santé. Est-ce que je peux demander autre chose ? Est-ce que je peux avoir une autre kavana ? Dis-lui. T'as un problème de parnassar ? T'as un problème de zigou ? Tu veux trouver ton âme sœur ? Tu veux trouver un gentil garçon avec qui faire ta vie ? Tu veux trouver une gentille fille avec qui faire ta vie ? Alors, prie. Quand tu pries pour ton prochain, tu en profites en premier. Ce qui veut dire que, prier pour quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui a des problèmes de santé, c'est une très grande mitzvah, c'est un très grand chesed. Et c'est une très grande mitzvah. Et ça rajoute du mérite à la personne. Et deuxièmement, on peut en profiter à la fin. Alors il y a une question qu'on me pose des fois, et qui est très difficile, et on va l'aborder. C'est quand on va prier pour une personne, et que finalement la personne, l'aura allé nous. Que ce ne soit pas le cas pour Yonatan, Shimshon, Ben Bako, alors allez-nous, que la personne, finalement, ça se passe pas un problème. Les gens viennent me voir révoltés, mais on a pris, on a fait des choses, vous avez. Quoi qu'il arrive, c'est pas, vous n'êtes pas perdant.
Pourquoi?
Parce que, un, toutes les prières, tous les mismorim, toutes les misvot qu'on prend pour nous, ça va pour le mérite de la personne, même si après elle doit monter dans le ciel. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, si Akadosh Baruch Hu a décidé que la mission de la personne n'était pas finie dans ce monde, alors elle la laisse parmi nous, pour qu'elle termine sa mission. Que Dieu fasse que Yonatan, ici, n'ait pas terminé sa mission, et qu'il la termine en bonne santé sur ses deux jambes, Bezrat Hashem, en bonne santé. Avec l'aide de Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu lui fasse un miracle, qu'il mérite de se lever, et qu'il n'ait pas besoin de calme, avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit qu'on doit comprendre, qu'on nous dit qu'au niveau de la réfoua, pour avoir le mérite de la réfoua, alors il y a différents points qui sont extrêmement importants. Extrêmement de points. Et des petites misvot, que quand on prend sur soi ces misvot-là, ce que je suis en train de vous dire, ça marche. Et ça marche vraiment. Il faut y croire. Quand on prend sur soi ces misvot-là, ça peut marcher pour la guérison de son prochain. Un, netilat yadayim le matin. Deux, netilat yadayim avant de manger. Trois, de faire les brachot. Quatre, de manger avec une kippa sur sa tête. Pour les garçons. Cinq, et c'est le dernier point, d'être makpid le matin, de prendre un bon petit déjeuner. De manger 60 grammes de pain au petit déjeuner. Pas de manger une banane ou une pomme dans le métro. Pour ceux qui digèrent bien le pain, de prendre le temps le matin, de boire au moins 4-5 verres d'eau, et de manger au moins 60 grammes de pain le matin. Pour celui qui ne peut pas manger du pain, parce que c'est motzi, et parce qu'il y a birkat, parce que tout le monde ici fait ses brachot, alors qu'ils prennent du pain mesonote. Il y en a plein du pain de mesonote. D'accord? Bezrat Hashem. Chacun y prend sur soi. Ce sont des choses qui, un, pour la personne, si elle fait ça toute sa vie, ça lui garantit une bonne santé pour elle. Et deuxièmement, quand on prend ses mitzvot sur soi, au moment où on a un ami à l'hôpital qui est malade, ça ne peut qu'aider. C'est des trucs qui marchent. C'est des petites infos, c'est important de les avoir. Ça, c'est au niveau de la réfoua. On va aborder le dernier point, la alia. Moi, j'ai fait mon alia il y a des années. J'étais jeune, j'avais 14-15 ans. Je suis parti vivre en Israël. Oh, Hachem. Je n'ai pas regretté. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas une minute. Il n'y a pas mieux sur Terre qu'Israël. C'est avec sa Kodesh, premièrement. On a notre armée, on est chez nous, on a nos différents, les religieux à l'armée, pas à l'armée, à la fin, on va trouver un terrain d'entente. Bezrat Hashem. Ça, c'est qu'un détail pour l'instant. C'est que la Géoula, elle est en route, Bezrat Hashem. D'ailleurs, on va aborder un petit point qui est intéressant. Alpi Halakha, je vais peut-être vous étonner. En réalité, le débat qui a lieu aujourd'hui en Israël ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce que la Halakha nous dit qu'un homme, par exemple, qui parle entre les tefilin du bras et de la tête, il n'a pas le droit d'aller à l'armée. Qu'un homme qui va parler entre les brachot du Yotzer, du Shema Israël le matin, et Shema Israël, ceux qui savent de quoi je parle, tant mieux, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, qu'ils ouvrent un sidour, il n'a pas le droit d'aller à l'armée. Pour les halakhot. Que celui qui a peur, parce qu'il pense qu'il a fait trop d'averot ou trop de bêtises, il n'a pas le droit d'aller à l'armée. Que celui qui est dans sa première année de mariage, pas le droit d'aller à l'armée. Le jeune fiancé qui doit bientôt se marier, pas le droit d'aller à l'armée. Alpi Halakha, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Qui c'est qui va à l'armée à la fin? Que les tzadikim. Les vrais. Les super tzadikim, ceux qui devraient aller à l'armée. On nous rapporte que quand Gidon, à l'époque des shoftim, à l'époque des juges, premières années en Israël, avant la construction du premier temple, on voit que Gidon, d'accord, il a dû lui mener la guerre contre les Philistins. Et arrive un moment donné où Gidon, il est sorti avec une armée de 72 000 hommes. C'est beaucoup d'hommes quand même. Contre une armée de quelques milliers de Philistins qui étaient beaucoup moins nombreux que l'armée juive. Beaucoup moins. Les 72 000 hommes sont morts au combat. Tous sauf Gidon. Gidon n'y comprend pas. à l'époque, ils avaient le Mishkan, ils avaient le tabernacle en Israël avant le temple. Il y avait le Kohen Gadol, et avant de sortir en guerre, il y avait une loi. Il fallait consulter les sages d'Israël, et le sage parmi les sages qui était le Kohen Gadol. Pour venir voir le Kohen Gadol, qui avait sur lui le poitrail, sur son poitrail, le Choshen Mishpat, avec des différentes pierres, et que quand on posait des questions au Kohen Gadol, les pierres, elles s'amusaient, elles clignotaient, entre guillemets, et donnaient des réponses. Et des lettres s'affichaient pour nous donner des réponses, pour savoir comment mener une guerre. Qu'une guerre devait être menée que « Alpiurim Betumim », selon les pierres du Choshen Mishpat, du Kohen Gadol. Gidon ne l'a pas fait. Kadosh Baruch Hu lui a fait perdre le combat. Quand Gidon est venu à poser la question au Kohen Gadol pour avoir la réponse de Dieu, Dieu lui a dit « Cette guerre, tu la gagneras avec une armée de 300 hommes. Tous les autres, tu les laisses à l'Yeshiva qui étudient la Torah. Vous sortez 300 hommes. » Il dit « Attends, mais il y a une armée de 150 000 Philistins en face de nous. Comment 300 hommes ? Kadosh Baruch Hu, il est avec vous. Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il est avec nous. Ils sont sortis 300 bonhommes contre 150 000 bonhommes. Ils ont gagné la guerre. » C'est-à-dire que si les guerres ne sont pas menées selon le date de la Torah, on a une chance de les gagner. Donc le débat qu'il y a aujourd'hui en Israël, il ne devrait pas avoir lieu. Normalement, si on suit les lois de la Torah, on prend les meilleurs bachourés et yeshivot, on les forme au combat, et ceux qui sortent en guerre, et tous les autres, on les fait rentrer à la yeshiva pour qu'ils puissent rentrer à l'armée. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Tous ceux qui ne sont pas de tzadikim, ils rentrent dans les yeshivot, pouvoir rentrer à l'armée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on a le débat qu'on a aujourd'hui. Pas grave. Moi, j'ai fait mon armée en Israël. Je sais de quoi je parle. On sait très bien qu'on a fait son armée en Israël, que Tsahal ne tient que par le mérite des miracles. J'ai vu des soldats au Liban. Qui, eux, ont accepté pour un ami qui venait de perdre son père de prendre un instant pour aller faire la tfila de Harvit pour compléter un minyan. Et à ce moment-là, des Arabes ont décidé de leur lancer des missiles sur eux, et au moment de la prière, sorti de nulle part, un troupeau de chèvres qui va se placer entre eux et les missiles. Tous les soldats sauvés. Petit miracle. Soukot, un soldat décide de construire une souka au Liban et dit à tous ses amis de la base, j'ai construit une souka en dehors de la base, venez ce soir, on va tous manger dans la souka. Ils vont tous manger dans la souka ce soir-là. Le missile, encore une fois, qui tombe sur la base, qui était vide. Et combien d'histoires comme ça? Combien de missiles et combien d'anecdotes? Qu'on l'a vu quand on est rentré dans l'opération Plomb Durci à Gaza, tous les soldats, des non-religieux, des types qui ne croyaient pas, ils ont tous dit qu'ils ont vu Rachel Imenu, qui disait « Ne rentre pas dans cette maison, elle est piégée. » Et je peux vous dire que j'ai étudié avec le Rav Mordechai Eliyahu qui en a parlé à l'époque, on n'a pas eu un ou deux témoignages, on a eu des centaines de témoignages de soldats non-religieux qui ne comprenaient pas, parce qu'ils ont tous vu la même femme au même moment, mais en deux lieux géographiques différents qu'ils avertissaient des maisons piégées dans Gaza. Elle a sauvé les soldats. Et alors, ils ont tous posé la question, mais qui es-tu, vieille femme? Elle dit, je suis votre mère, je suis Rachel, Rachel Imin, je suis Rachel, votre mère, Rachel Imin, qui est venue en personne pour nous sauver. Elle leur a dit, faites teshuva à une centaine de soldats, Mashiach arrive. On y croit, on n'y croit pas, moi j'ai aucun problème. On peut dire, c'est un religieux qui nous raconte ça. Vous connaissez YouTube? Ou Google.com? Alors vous allez sur Google.com, là-bas, là où tous les Google y vont, d'accord? Parce que quand on leur dit quelque chose, ils disent, c'est vrai parce que j'ai vu ça sur Google, et Google, d'accord? Donc vous allez sur Google.com et vous cherchez l'histoire. Et vous allez voir des témoignages. Ou alors sur un site Torah Box, d'accord? Qui fait pas mal de choses. Que je fais mon maximum pour les aider, pour répondre aux questions, pour les aider dans la rédaction de leur svarim. Baruch HaShem, Torah Box, qui a rapporté cette histoire, et avec les traductions en dessous, qui est passée dans la presse israélienne, dans les journaux israéliens. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël, c'est extraordinaire. On a d'un côté un gouvernement aujourd'hui avec certains messieurs qui veulent prendre des décisions contre les religieux. Il faut savoir que quand aujourd'hui on vous parle des yeshivotes, quand on parle de sanctions contre les yeshivotes, on ne parle pas uniquement des yeshivotes, des pingouins en noir et blanc comme moi. D'accord ? On ne parle pas des pingouins comme moi en noir et blanc. On parle aussi de tous ceux qui ont la kippa skouga et qui habitent dans les territoires et qui sont dans les yeshivotes esder. Ces yeshivotes-là aussi, on leur a enlevé du budget. Ces yeshivotes-là, on leur a diminué aussi du budget. Nos frères qui habitent dans les territoires aujourd'hui, ils doivent plus s'inquiéter de Tzahal que des Arabes. Ils sont plus embêtés par Tzahal que par les Arabes. Hachem Irachem, la génération, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il faut que l'ardoute se fasse dans le clan d'Israël. Pour que l'ardoute se fasse, c'est simple, clair et net. On n'attend qu'une chose. Le Rabbi Lubavitch, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, je ne suis pas Lubavitch, mais j'adore les Lubavitch. Je ne suis pas pour vous. Le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadiv et Kadosh Livracha, il a dit une chose extraordinaire sur les Juifs de France. Il a dit, les Juifs de France, c'est Otiot ou Faratta. Faratta, ça veut dire, dans le fameux verset, quand on dit au d'Israël, on a garanti à nos pères, ou Faratta, tu te répandras sur la terre d'Israël, et la Torah se répandra à travers le monde par ton mérite quand tu feras Torah en Mitzvot. C'est Otiot Tzafat. Les Juifs de France, ils ont ce pouvoir de faire leur doute. On voit aujourd'hui en Israël, les Juifs qui sont venus de France, la ville de Ranana, ça peut être intéressant ou pas intéressant. Il y a 25 ans, 30 ans, c'était une ville où on avait du mal à trouver un restaurant cachère. Aujourd'hui, avec les Juifs de France, il y a des collégiens, il y a des séminaires, il y a des cours de Torah tous les jours, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Il y a des synagogues, et des synagogues, et des synagogues. Et des restaurants cachères, pas cachères, cachères plus plus, cachères la méadrine. Ils ont transformé la ville. Quand les Juifs sont venus à Tel Aviv, les Juifs de France, ils ont racheté tous les locaux avec les commerces plus ou moins douteux sur Ben Yehuda pour les transformer en commerce cachère ou pour les transformer en Beth Rabat ou en synagogue. Ils ont transformé des quartiers, le quartier du tribunal de Tel Aviv Wiesmann. Les Français ont débarqué. C'est un quartier religieux. Il y avait une yeshiva Tesder toute petite. Elle a grandi, la yeshiva, elle est remplie de monde. Les Français, ils ont débarqué. Qu'est-ce qu'on a, nous, les Français? Chez nous, les Français, il n'y a pas les Chassidim, il n'y a pas les Ashkenazes, il n'y a pas les Séfarades. Il y a nous, les Juifs, et c'est tout. On est tous des Juifs. On n'est qu'un seul peuple. On s'en fiche, religieux, pas religieux. On s'en fiche. On n'a pas tous ces nénina. Baruch HaShem. Si tous les Juifs de France aujourd'hui, ils s'amusent à faire une petite expérience qui s'appelle la Teshuvah. D'ailleurs, une chanson très sympa que j'aimerais bien vous chanter, mais peut-être à la fin, parce que je chante pas bien. Mais ne sens-tu pas que la Teshuvah, elle est montée en toi, montée en toi. Avant que ma Chia revienne, vous la connaissez ou pas? Faudrait faire Teshuvah, 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 Teshuvah. Donc une expérience extraordinaire qui s'appelle la Teshuvah. D'accord? Cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? L'unité dans le peuple d'Israël, autour de la Torah et du Mitzvot, et on est bien. Et on va tous rentrer à la maison, dans le shalom, dans la paix et la tranquillité, et on ramène la paix dans l'humanité. Parce que quand on parle de Gioula, c'est pas que pour nous, c'est pour l'ensemble de l'humanité. Be'ezrat Hashem. Mais on voit aujourd'hui qu'on est arrivé à un croisement, à un carrefour historique de notre histoire. Vous pouvez rigoler jusqu'à demain, vous êtes encore jeunes. Ceux qui ont un peu d'expérience, ils vous le disent, et les plus anciens vous le diront encore, et les plus vieux que moi vous le diront. Et je sais, ça fait pas bien quand on paternalise un peu les gens, on les prend un peu sous un angle paternel. Mais ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui sont des moments cruciaux de notre histoire. Et ce que vous devez comprendre, c'est que l'Europe, aujourd'hui, si elle ne change pas très vite de politique, elle verra tous les Juifs d'Europe partir et la quitter. Et je ne vais pas vous rappeler ce qui est arrivé en Espagne après l'Inquisition, que jusqu'à aujourd'hui, l'Espagne, elle a du mal à remonter. Je ne vais pas vous rappeler ce qui est arrivé à la Grèce, que la Grèce, c'est une des principales responsables de la crise économique aujourd'hui en Europe, alors que la Grèce a soumis le peuple juif et que la Grèce a régné sur le monde. Aujourd'hui, c'est la sœur pauvre de l'Europe. En Bretagne, ils ont voulu s'amuser à faire des manifestations, ils sont amusés à faire des quenelles et à avoir des déclarations antisémites. Pas plus longtemps que ça, 2-3 jours plus tard, ils avaient les inondations, ils avaient les tempêtes en Bretagne. À chaque fois qu'on décide de faire partir les Juifs de quelque part, les catastrophes s'abattent, parce que Dieu ne veut pas de haine entre les peuples. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. On voit que dans tous les endroits où il y a des dictateurs, où il y a des guerres qui sont injustifiées, où il y a des injustices, il y a la misère qui vient et qui s'installe. Aujourd'hui, les Juifs de France, vous êtes un phare pour le monde. Le judaïsme, c'est un phare pour le monde. La Torah, c'est un phare pour ce monde. C'est la base de cette société, une société judéo-chrétienne, entre guillemets. En réalité, la première religion monothéiste, premier dévoilement divin, où on parle de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, plus de 3 millions de personnes qui, tous ensemble, ont vu Dieu. Et je vais vous dire un dernier point. Pour tous ceux qui n'y croient pas et qui remettent ça en question, parmi nos rangs, je vous expliquais comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ça vous énerve quand on parle de la Shoah et qu'on vous remet en question la Shoah, que certains révisionnistes voudraient dire que ça n'a pas existé et que les chambres à gaz n'ont pas existé, alors que ça a existé. Alors que moi, j'ai des gens dans ma famille qui ont survécu à la Shoah, j'ai des gens dans ma famille qui sont morts dans les camps de la mort. Ça a existé. Et pourtant, aujourd'hui, on a des gens, et on voit au Danemark, ils veulent réviser l'histoire de la Shoah. Ils veulent réviser l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et éluder, enlever de l'histoire certains points de la Shoah. Ils falsifient les choses. Comme on nous rapporte dans le passé que ce qu'ont voulu faire les Grecs aux Juifs, c'est de l'ancienne histoire, c'est pas vrai. Ce qu'ont voulu faire les Romains aux Juifs, c'est pas vraiment exact. Que tout ça, ça a été remis en question à leur époque. Le révisionnisme n'a rien de nouveau. Si nous, on est révisionnistes avec la Torah, il ne faut pas s'étonner que les nations du monde soient révisionnistes avec nous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Toi, t'attends quoi? Tu sais que la Shoah, ça a existé parce qu'il y a des films, parce qu'il y a des photos, mais les gens, ils te répondent aujourd'hui, il y a Photoshop. Les films, il y a des effets spéciaux. C'est ça qu'on te répond aujourd'hui. Alors que la Torah, tu sais qu'elle a été donnée sur le Mont Sinaï. Tu sais que Dieu s'est dévoilé à nous parce qu'il y a eu 600 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants, et sans compter les femmes et les enfants, près de 3 millions de personnes qui disent que Dieu s'est dévoilé à eux. Et ce sont nos pères. Et nous, on est 3365 ans plus tard, ici, au Lila, tous réunis pour la réfoua chez les mains de Yatan Shinshan Ben Bakor. On voit quoi? On voit qu'on est encore là à parler de Torah et des votes, et du Arsinaï, et de mettre les tefilines, de manger cachet et de faire Shabbat. Alors je vais lancer un dernier message qui est très important. Pour tous ceux qui ne font pas encore Shabbat, ou si vous connaissez des gens qui ne font pas Shabbat, parce que je suis sûr qu'ici tout le monde fait Shabbat, Baruch HaShem. Si vous connaissez des gens qui fument beaucoup et qui disent « Moi le Shabbat j'ai du mal à cause de la cigarette. »
J'adore, c'est ma préférée.
Il faut dire qu'il y a un rabbin qui est juge rabbinique à Bnei Brak, qui s'appelle le Rav Chaim Ishai, qui a dit la chose suivante. Qu'un monsieur, s'il veut commencer à faire Shabbat, alors que c'est un gros fumeur, qu'il commence par enlever une cigarette par Shabbat. Premier Shabbat, on enlève une cigarette. Deuxième Shabbat, on enlève deux cigarettes. Et on va à la synagogue. Et on essaye de faire Shabbat. Et on prend les mitzvot, shuya, doucement, doucement. On y va doucement. Il ne faut pas se faire mal. Red balik. Vous comprenez l'anglais ou pas? Vous êtes choqués? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité qu'il faut y aller doucement. On y va doucement, mais sûrement. Moi, j'ai des élèves. Quand ils m'ont connu, ils fumaient 5 paquets de cigarettes par jour. Imaginez Shabbat. Un fumeur de 5 paquets de cigarettes. Ils ont enlevé Shabbat par Shabbat une cigarette. Aujourd'hui, il n'y a plus de clope. Aujourd'hui, il y a la synagogue. Il y a qui douche. Il y a toutes les tefilotes à la synagogue. Et il y a le kiff du Shabbat. Ils attendent que ça. Doucement, doucement. À Kadosh Baruch Hu, ils comptent les mitzvot d'un côté et les avérotes de l'autre. C'est pas quand tu fais une avéra, ça annule ta mitzvah. C'est pas vrai. Doucement, doucement. La Torah, c'est comme un escalier. Si quelqu'un il essaye de monter les marches trop vite, il risque de se casser la figure. S'il monte trop lentement, il risque d'oublier de monter. Et à la fin, il va oublier pourquoi il oublie les escaliers. On va se poser une question, on va l'enfermer à l'asile. Ou encore pire, il va décider de descendre l'escalier. Alors qu'en réalité, la Torah, c'est comparé à une échelle, parce qu'on monte doucement, doucement, marche par marche. Doucement, mais sûrement. Que chacun ici prenne sur soi des petites mitzvot. Lire des teilim, faire les brachot, le netilat yadayim le matin, le netilat yadayim avant de manger. D'accord ? Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler sans aucun problème. Je vous distribue mon numéro de téléphone qui est très, très, très facile et qui vous rappellera le Shabbat Bezrat Hashem. Quand vous comprendrez, quand je vous donnerai Bezrat Hashem. Maintenant, c'est des points qui sont extrêmement importants. Bezrat Hashem, que chacun ici se renforce, prenne sur soi des petites mitzvot afin qu'on ait les mérites. De voir Yonatan, Shimshon, Ben Bako guérir Bezrat Hashem. Qu'on ait le mérite de voir chacun ici avoir une bonne parnassa et venir très très vite nous rejoindre en Israël. On vous attend les bras ouverts. Ceux qui ont besoin de conseils pour venir monter et faire leur alliance en Israël, vous pouvez venir me voir. Je me ferai toujours un plaisir de vous conseiller, de vous aider à trouver les écoles, le bon endroit, les bonnes choses, les bonnes études, les bons diplômes, le bon boulot. Bezrat Hashem, on essaye de monter un réseau qui existe déjà pour vous aider en Israël. Bezrat Hashem, que par le mérite de ce cours de Torah, par le mérite de ces quelques paroles, qu'on ait la Géoula totale, que Mashiach arrive, parce que clock, comme on dit chez nous, les leurs, clock en anglais. Bezrat Hashem. Amen, Keni Ratzon. Il y a des questions ?